Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver pour ce troisième temps ensemble de façon virtuelle. J'espère que vous passez de bons moments dans la présence de Dieu et dans la communion fraternelle, et mes pensées sont vraiment avec vous et vous accompagnent. Donc, nous allons continuer à méditer sur ce passage de Romains chapitre 5, où nous avions vu au verset 1 que nous étions justifiés par la foi, que ça avait eu lieu une fois dans le passé, c'était irrémédiable, ça ne pouvait pas changer, et que maintenant nous avons la paix avec Dieu en permanence, parce que Dieu est en paix avec nous par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avions vu aussi que Dieu prend soin de nos péchés grâce au moyen de la justification, et qu'il prend soin de notre péché, de notre vieille nature pécheresse, du mal qui existe en nous et dont nous avons hérité d'Adam, et donc il prend soin de nous en tant que personne, en tant qu'être, par le moyen de la sanctification. Et c'est pour ça qu'il permet des épreuves, des tests, des pas de foi, qu'il suscite des pas de foi, etc., etc. Et puis nous avions vu au verset 2 aussi de Romains chapitre 5 que nous avons eu accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et donc c'est cette grâce dont nous bénéficions continuellement, mais il faut pour ça s'en saisir. Donc, nous avons été justifiés, c'est le passé, nous ne pouvons rien faire. Nous avons la paix avec Dieu parce que Dieu nous voit d'un œil favorable grâce à son Fils Jésus-Christ. Nous ne sommes plus en guerre avec Dieu. En revanche, nous pouvons nous douter de temps en temps et nous priver de la grâce de Dieu pour aujourd'hui. Et donc, il est important de nous maintenir dans cette grâce. Et cela d'autant plus qu'il nous arrive parfois de vivre des épreuves, on avait vu ça au verset 3 et 4 donc de Romains 5, où nous avions parlé qu'il y avait tout un processus dans la sanctification. Il y a des afflictions que Dieu permet, qui produisent la persévérance, parce que comme on ne peut pas en sortir par nous-mêmes, on est obligé de patienter, donc ça produit la persévérance en nous, ça nous façonne. Et parce que nous apprenons la persévérance, nous pouvons vivre des victoires qui ne sont peut-être pas, je dirais, susceptibles d'être vécues, expérimentées dans un délai court, mais plus long. Et pour expérimenter la victoire, il faut de la persévérance. Et grâce à cette expérience que suscite la victoire, ça produit une espérance pour le futur, que ça soit à court, moyen ou à long terme. Et nous sommes accompagnés en cela aussi par la présence de Dieu dans notre vie, puisqu'il est dit au verset 5, que l'espérance ne trompe point, c'est-à-dire qu'on n'espère pas comme ça bêtement en espérant qu'on ne se trompe pas. Mais non, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc là, c'est encore le verbe donner, c'est une preuve supplémentaire de l'amour inconditionnel de Dieu envers nous. La troisième personne du Saint-Esprit nous a été donnée, Dieu lui-même nous a été donné par le Saint-Esprit. Et je rappelle que selon Jacques chapitre 1 verset 17, les dons de Dieu sont sans repentance, donc il ne va pas se repentir de nous avoir donné le Saint-Esprit. Alors maintenant, j'aimerais que nous nous attardions sur un verset qui est un peu plus loin dans Romains 5, c'est le verset 17. Et vous allez voir qu'à ce titre, il est très intéressant, surtout dans le contexte où nous en parlons. En Romains 5, verset 17, il est écrit « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, » donc à cause d'Adam, hein, le un seul c'est Adam, Adam a désobéi, en plus une seule fois, la mort est entrée dès le premier péché. Donc si par l'offense d'un seul, il n'est pas dit par les offenses d'un seul, ou par l'offense de plusieurs, ou par les offenses de plusieurs, c'est singulier à chaque fois, un péché, une offense et un seul Adam. Donc par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, donc on voit qu'à cause d'un homme et d'un péché, ça a engendré une condamnation qui n'est pas une demi-mesure, c'est la mort physique et aussi la mort spirituelle pour l'éternité. Et Paul dit, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Et pourquoi il dit, Paul, à plus forte raison? Tout simplement parce que on sait très bien qu'à cause d'un seul péché d'une seule personne, Dieu a été intraitable. Et donc, s'il nous donne la grâce, notamment depuis, il a toujours donné la grâce en réalité, mais là, Paul parle de la croix en fait, et aussi du bénéfice de la croix lorsqu'on se convertit. Lorsque nous nous convertissons, ou lorsque Jésus est mort à la croix, sa mort à la croix et notre régénération quand nous avons cru viennent après de nombreuses personnes qui ont péché et de nombreux péchés qui ont été commis. Et donc, sachant que Dieu, dans sa sainteté, a condamné le péché et un homme à cause d'une seule offense, si, parce que Dieu ne, comment dire, Dieu ne change pas, Dieu n'oublie pas, Dieu ne devient pas fou, il ne fait rien comme ça sans avoir réfléchi et c'est selon sa sagesse infinie. Si Dieu nous donne la grâce, il la donne pas après un seul péché, il la donne pas après la désobéissance d'un seul homme, il la donne après d'innombrables péchés et pour d'innombrables individus. Et donc, en toute connaissance de cause, il a donné la grâce. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a une abondance de grâce. Parce que il a donné cette grâce en toute connaissance de cause. Il ne l'a pas donné parce qu'il était ignorant, en disant bah, « c'est des petits pécheurs » ou « c'est pas trop grave ». Non, il est vraiment conscient de tout ce que le péché a pu entraîner. Et c'est intéressant parce que Dieu, là, nous propose quelque chose de qui est lié, je dirais, au règne, d'une certaine manière. C'est que, il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné. Donc, on voit que la mort, quelqu'un qui règne, en règle générale, bon, au niveau des hommes, c'est pas toujours vrai. Vous pouvez avoir un roi qui n'a pas tous les pouvoirs, ou qui est limité, ou son règne ne s'accomplit pas de la meilleure façon qui soit. Mais, s'agissant de la mort, ou de Dieu, ou de des choses spirituelles, lorsqu'il est dit que la mort a régné, c'est-à-dire que la mort a autorité. Et c'est vrai que la mort a autorité. La mort est patiente, je dirais même d'une certaine manière, mais elle a quand même autorité. C'est-à-dire que nous ne mourrons pas tous tout de suite, nous vivons plusieurs années, mais c'est quand même la mort qui règne à la fin. C'est elle qui gagne à chaque fois, je parle d'un point de vue naturel. Et donc, par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Donc le don de la justice, encore une fois, c'est donné, c'est en français, vous connaissez cette expression où il est dit « donner, c'est donner, reprendre, c'est voler ». Pourquoi ? Parce que donner, ça sous-entend que on donne justement à quelqu'un, ou on confie à quelqu'un quelque chose qui lui appartient, qui ne nous appartient plus. Si moi je vous donne un objet, il ne m'appartient plus. Ben, si Dieu nous donne le salut, je dirais d'une certaine manière, le salut ne lui appartient plus. C'est-à-dire que nous sommes sauvés, ça nous appartient, c'est à nous, il n'y a plus de conditions, ça a été donné. Et donc il dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul ? Et c'est intéressant parce que Jésus a dit en Évangile de Jean, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Bien entendu, en Christ, c'est pas la mort qui nous est proposée. Et donc, la mort a régné à cause d'Adam et de sa descendance, mais maintenant, c'est la vie qui peut régner, mais non pas par nous-mêmes. C'est que c'est la vie qui nous régnerons dans la vie par Jésus-Christ. Tout comme nous sommes morts dès le départ, dès que nous naissons, nous sommes morts en fait. C'est une question de temps. Et pourquoi nous sommes morts dès que nous avons reçu la vie ? Parce que nous avons hérité de la mort qui règne depuis Adam, à cause d'un seul. Mais par un seul, par Jésus-Christ, c'est la vie qui nous est donnée, et maintenant c'est la vie qui règne, ce n'est plus la mort qui règne. C'est pour ça que c'est important de voir que Paul en parle même d'un point de vue d'autorité, si vous voulez. C'est-à-dire que je dois me placer sous l'autorité de Dieu, mais se placer sous l'autorité de Dieu, c'est se placer aussi sous le règne de la vie. Et donc, la vie va régner par Jésus-Christ lui seul. Donc, soit nous choisissons la vie, soit nous choisissons la mort. Et c'est intéressant de comprendre ça, parce qu'au niveau de l'imputation, je dirais la manière de vivre la vie chrétienne, parce que l'imputation, c'est un acte souverain de la part de quelqu'un comme Dieu qui a utilisé son autorité pour le faire. Donc, s'agissant de l'imputation en Adam, et donc depuis cette mort qui règne à cause d'Adam, Dieu a décidé qu'à cause de la désobéissance d'un seul, tout le monde allait devenir pécheur. Et donc, nous, lorsque nous avons été conçus dès le ventre de notre mère, il y avait cette imputation sur notre tête. C'est-à-dire que nous payons pour la désobéissance d'un seul. C'est toute une génération. Moi, j'aime utiliser un peu ces exemples. Lorsque vous avez, par exemple, dans des guerres, un pays qui perd cette guerre, Il y a des dommages, il y a un traité de paix qui est signé, donc il y a des dommages et intérêts, il y a des fois de l'argent à donner, ou il y a la nation qui a perdu perd une partie de son territoire. Enfin voilà, il y a plusieurs. Elle est peut-être interdite de financer une armée. Enfin voilà, il peut y avoir des conséquences suite à la perte de cette guerre. Mais une fois que les gens qui étaient contemporains de cette guerre sont morts, les enfants subissent encore cette conséquence-là. Tant que ce traité est en place, tant que ces conditions sont imposées, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants subissent les conséquences de cette défaite subie par leurs aînés. Et ben c'est la même chose, c'est-à-dire que nous, lorsque nous sommes nés, Dieu nous a imputé cette faute, et donc nous sommes pécheurs par nature. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'avant même donc quand nous avons reçu l'imputation du péché, nous n'avions commis aucun péché. Et de la même façon, lorsque nous avons reçu la justice de Christ, nous l'avons reçue par la foi et non pas en fonction des œuvres. Et avant même d'œuvrer pour Dieu, nous avons été justifiés. Donc l'imputation en réalité n'a rien à voir avec les œuvres. Que ça soit l'imputation et la malédiction d'Adam, le fait que j'ai reçu la mort en Adam, ce n'est pas dû au fait que j'ai commis une mauvaise œuvre, c'est parce que lui en a commis une, elle m'a été imputée, elle a été mise sur mon compte. Et de la même manière, Jésus-Christ a produit de bonnes œuvres, il a accompli la loi pour moi, et donc sa justice m'a été imputée. Donc l'injustice d'Adam, sa désobéissance m'a été imputée, sans que j'aie commis le moindre péché. Dès ma conception, j'ai reçu cette malédiction. Et dès que je suis né de nouveau, j'ai reçu la justification en Jésus-Christ. Donc avant même de produire une œuvre pour Christ, j'ai reçu cette abondance de grâce. Et c'est ça que nous devons comprendre. C'est-à-dire que, bien entendu, on peut parfois être attristé lorsque nous péchons, on peut se sentir coupable, etc. Donc nous avons besoin peut-être de jeter un regard objectif sur ce que nous sommes en train de vivre, nous repentir, marcher avec Dieu, lui demander de l'aide, confesser nos faiblesses. Mais ça n'enlève rien à notre position, parce que ma position n'a rien à voir avec les œuvres. Ma position de pécheur n'avait rien à voir avec mes œuvres, ça m'a été imputé. Et ma position en tant que sauvé n'a rien à voir avec mes bonnes œuvres, ça m'a été imputé aussi. Et c'est en cela que c'est une abondance de la grâce. Et là, le mot, dans ce verset 17, il est dit, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Et là, le mot abondance, c'est le mot périsseia en grec, P-E-R-I. 2 S-E-I-A, et ce mot-là, abondance, abondance de la grâce, ça parle d'une mesure qui est bien au-delà de l'ordinaire. Ça parle d'abondance, comme c'est traduit en français, mais surabondamment aussi, on pourrait traduire ainsi, ou même de façon superflue, c'est-à-dire qu'il y en a trop. Un peu que lorsque vous êtes invité à un repas, imaginons qu'on vous propose de la viande et qu'on vous donne 10 ou 15 kilos de viande. C'est une surabondance, vous n'allez pas manger tout cela. Donc vous allez manger ce dont vous avez besoin, et le reste, c'est superflu, le reste, c'est trop. Mais ça vous a été donné quand même, mais vous n'allez même pas pouvoir l'utiliser. Et bien la surabondance de la grâce, c'est ça. C'est-à-dire que nous avons reçu une grâce qui est au-delà de toute mesure, c'est-à-dire que moi, dans mon entendement, j'ai tendance à me dire, œil pour œil, dent pour dent, j'ai commis un péché, Dieu va me traiter selon cette mesure-là. Il peut le faire parfois, il peut, ça c'est son rôle et sa souveraineté en tant que Dieu, mais son rôle en tant que Père de nous discipliner s'il le faut. Mais s'agissant de notre position, il va me donner une grâce qui est en fait la même que celle que j'ai reçue quand j'étais sauvé, qui sera toujours la même, c'est-à-dire une grâce surabondante, et qui couvre mes péchés, ce qui fait que ma position n'est pas entachée par cette surabondance de grâce qui est à ma disposition. Elle n'est pas à la mesure de mon péché, elle est au-delà de la mesure de mon péché ou de mes péchés. Et donc, lorsque je suis né, j'ai reçu d'Adam tout ce qu'il avait commis, péché, la mort, séparé de Dieu. Donc c'est horrible, en fait, dès que nous naissons, il y a le péché en nous, dès que nous naissons, nous savons que nous allons mourir, et dès que nous naissons, si on est un peu conscient et objectif de certaines choses, nous savons que nous sommes séparés de Dieu. Et bien, en Jésus-Christ, on a reçu de la même manière tout en Jésus-Christ. Nous avons reçu non pas le péché, mais sa vie parfaite. Nous n'avons pas reçu la mort, nous avons reçu sa vie, et nous ne serons plus séparés de Dieu. Donc, l'homme, lui, naturel, descendant d'Adam, il est pécheur, il est mort, séparé de Dieu. Le croyant, scellé par le Saint-Esprit et lié au sort de Jésus-Christ, n'a plus de péché. Celui qui est né de Dieu ne pèche plus, il n'y a plus le péché, nous ne sommes plus vus comme tels de la part de Dieu. Aujourd'hui, il y a la sanctification, c'est vrai, tout n'est pas parfait, mais in fine, à la fin, le péché ne régnera plus, et lorsque nous verrons Christ, nous serons comme lui. Donc il n'y a plus le péché, il n'y a plus la mort, c'est la vie qui nous a été donnée, et nous ne sommes plus séparés de Dieu, et nous ne serons plus jamais séparés de Dieu. C'est ça la provision de Dieu que nous avons reçue en Jésus-Christ. Et nous avons reçu bien plus que ce que nous pouvons imaginer, et c'est pour ça que c'est appelé une abondance de grâce. C'est pas une grâce ordinaire, c'est pas une grâce qui est liée à ce que je fais uniquement et qui est à la mesure de ce que je fais, c'est bien au-delà. C'est une grâce qui n'aura pas de fin, c'est une grâce qui n'est pas limitée, elle ne me sera jamais retirée. Ma communion peut être rompue, mais je serai toujours un enfant de Dieu. Donc on a reçu quelque chose qui est au-delà du possible. C'est pas possible, on voit dans Jérémie, il est impossible pour un léopard d'enlever ses taches, de la même manière c'est impossible pour nous d'enlever le péché qui est en nous. Mais Dieu va le faire. C'est impossible de ne pas mourir. Ben pour Dieu c'est possible, ça s'appelle la résurrection. Ce n'est pas possible d'avoir accès à Dieu. Et ben par Jésus-Christ c'est possible. Ce qui est impossible à l'homme est possible pour Dieu. Et ce sont les possibilités de Dieu, donc de regarder à Christ, qui nous permet d'être dans la joie. Si on regarde à nous-mêmes, là il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impossibilités. Et donc un croyant qui réussit à s'approprier ces vérités, cette abondance de grâce, peut entrer dans une dimension de la vie chrétienne qui est surnaturelle, qui est surabondante elle aussi, et qui est, je dirais, incompréhensible pour l'entendement humain. L'apôtre Paul parle aux Corinthiens, vous savez, de croyants qui avaient fait une collecte pour une autre assemblée. Et il écrit en 2 Corinthiens 8:2 que ces croyants étaient au milieu de beaucoup de tribulations. Donc là, il n'est pas parlé d'affliction, mais de tribulation, et pas qu'une, beaucoup. Et donc, il y avait un besoin pour d'autres églises, mais peut-être que ces croyants auraient pu se dire, ben oui, mais nous, on passe tellement par des tribulations, c'est peut-être pas le moment, faut peut-être penser à nos proches. Mais non, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, c'est-à-dire que ça les a testées, rappelez-vous, l'affliction produit la persévérance la victoire et la victoire l'espérance. Et ben là, ils avaient les tribulations qui les ont éprouvées, qui les ont testées. Mais que se passait-il pendant ces tribulations? Il est dit que leur joie débordante, et c'est intéressant parce que le mot débordante, là, c'est le même mot que nous venons de voir dans abondance de la grâce. Là, c'est pas traduit par abondant, mais par débordante. Leur joie, pereseia, c'est le même mot grec. C'est-à-dire que c'était une joie qui était sans commune mesure avec une joie ordinaire. Ça allait bien au-delà de ce qui était possible. Et eux vivaient d'une certaine manière dans l'impossibilité, beaucoup de tribulations qui les éprouvaient, mais ils avaient une joie qui surpassait tout ça. Tout comme nous, lorsque nous péchons, il y a une grâce surabondance. Eux, lorsqu'ils vivaient les afflictions, les tribulations, ça n'empêche pas une joie de déborder. Et ensuite, il est dit, et leur pauvreté profonde, donc ce n'est pas une petite pauvreté, c'était vraiment profond, elle était grande. Normalement, la pauvreté, ça produit quoi? Rien, puisqu'on est pauvre. Là, c'est une pauvreté profonde. On pourrait dire que c'est moins que rien même. Eh bien, leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. C'est-à-dire que, oui, par la vue, ils étaient pauvres, et c'était donc expérimentalement vrai. Il n'était peut-être pas sage, entre guillemets, selon le point de vue humain, de donner de l'argent à d'autres, mais ils n'étaient pas que pauvres, ils étaient aussi joyeux. Et c'était cette joie plus la pauvreté qui engendrait une abondance de riches libéralités de leur part. C'est-à-dire que c'est la joie qui produisait ces libéralités, parce que la pauvreté ne peut pas produire de libéralité. Alors, enfin, je ne sais pas exactement matériellement comment ça a été possible. Toujours est-il que ça a été le résultat de cette foi qu'ils avaient dans la grâce débordante de Dieu pour eux-mêmes, et à partir du moment où ils se sont saisis de ces vérités-là, il y a eu une abondance de riches libéralités de leur part pour les autres. Et c'est ça la vie chrétienne. Comme dit Paul dans 2 Corinthiens 5, 14 à 17, c'est l'amour de Dieu qui nous presse. Au milieu des afflictions, l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit, et donc ça produit une joie débordante. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible? Moi je dirais déjà une chose, des fois dans la vie, au milieu des tribulations, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter, méditer un petit peu, prier et de se dire, Là, je souffre, Seigneur. Tu sais ce que je suis en train de traverser au niveau de mes émotions, au niveau physique, au niveau relationnel, dans ma relation avec toi. Il y a peut-être une guerre spirituelle, il y a des tribulations, il y a peut-être même des complots contre moi. Bref, on peut vraiment vivre des situations parfois difficiles. Donc on est au milieu des tribulations. Mais même au milieu des tribulations, on est au milieu de la grâce. Et le problème, c'est que les tribulations masquent la grâce de Dieu, parce qu'on marche par la vue. Et donc à un moment donné, il faut peut-être fermer les yeux, se concentrer, et de se dire, les promesses de Dieu sont oui, amen, et elles ne sont pas terminées. Elles sont éternelles, elles dureront à jamais. Et Seigneur, aide-moi à traverser ces épreuves pour que ça produise de la persévérance dans ma vie. Je sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et donc je m'attends à toi pour que je sois transformé un peu plus à l'image de ton Fils. Et donc au milieu de beaucoup de tribulations, je peux continuer d'avoir la joie de mon salut. Et du coup, ça ne va peut-être pas changer dans un premier temps les situations, mais je serai en paix avec Dieu, et ça va me permettre peut-être de continuer de servir les autres, de penser aux autres, et de pas être comme un animal, vous savez, qui a peur, terré dans son nid parce que il sent du danger au dehors. Non, nous n'avons pas peur parce que nous avons un amour parfait qui bannit la crainte. Et donc, au milieu de tribulations, il y a une joie débordante malgré tout qui nous permet de produire des œuvres alors que ce n'est peut-être pas le moment. C'est peut-être pas le moment de pardonner à quelqu'un qui nous en veut. Oui, mais moi j'ai été pardonné, j'ai reçu une grâce surabondante, j'ai un amour surabondant pour mon frère ou pour ma sœur, et je vais le manifester par la foi, et je vais avoir Dieu avec moi, et ça va me permettre de répandre à d'autres quelque chose qu'ils ne méritent pas, mais que de toute façon, je ne méritais pas non plus, et pourtant Dieu me l'a donné.